Bonjour et bienvenue, je suis Claire Martin.
Et moi, Nicolas Moreau. Ce soir, un fil rouge qui traverse presque toutes les histoires de l'émission. La confiance. La confiance dans nos téléviseurs, dans nos outils de développement, dans nos fournisseurs de logiciels et même dans des algorithmes de conduite. On commence avec des téléviseurs qui, littéralement, vous écoutent.
Alors, l'histoire qui a fait beaucoup réagir, c'est l'enquête de Gamers Nexus sur les Smart TV LG. Leur constat est brutal. Ces téléviseurs enregistrent des conversations, les transcrivent et envoient tout vers LG Ad Solutions. On parle d'environ 216 millions de téléviseurs suivis.
Et ce qui a marqué les commentateurs, c'est un détail encore plus inquiétant. L'audio du micro est capturé même écran éteint. Et les téléviseurs scannent aussi le réseau local. Donc ce n'est pas juste « la télé regarde ce que vous regardez ». C'est « la télé sait quels appareils vous avez chez vous et entend ce qui se dit dans le salon ».
Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est que deux camps se dessinent. Il y a ceux qui disent « c'est le prix du modèle économique ». Si vous vendez un téléviseur presque au prix coûtant, vous devez monétiser les données. Et ceux qui répondent, peu importe le modèle, un micro qui tourne avec l'écran éteint dépasse ce qu'un utilisateur peut raisonnablement attendre, même après avoir cliqué sur un long contrat de licence.
Beaucoup d'expériences personnelles aussi. Des gens racontent avoir isolé leur téléviseur sur un VLAN dédié, avoir bloqué les domaines de télémétrie sur leur box, ou carrément l'avoir débranché d'Internet et utilisé comme un simple écran avec une boîte TV externe. Et c'est exactement le conseil de Gamers Nexus, déconnecter la télé du réseau.
Mais même chez ceux qui ont isolé leur appareil, il reste une frustration. Certains font remarquer que les fonctionnalités vendues comme des services, les applis, les mises à jour, deviennent de facto inutilisables si vous refusez la surveillance. Vous payez un produit complet et vous vous retrouvez avec la moitié du produit. D'autres rappellent qu'on ne connaît pas le périmètre exact de la collecte. Qu'est-ce qui part? À quelle fréquence? Est-ce que les transcriptions sont conservées? Ça, personne ne le sait précisément.
Et côté juridique, la question reste ouverte. Est-ce que ça viole les lois sur la protection de la vie privée selon les pays? Y aura-t-il des poursuites, des amendes? Les commentateurs en débattent, mais il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Certains espèrent des réactions régulatrices, d'autres sont sceptiques et pensent que rien ne changera tant que les acheteurs ne lisent pas les conditions.
Et en creux, une question plus philosophique revient souvent. Quand on achète un téléviseur, est-on le client ou le produit? Parce que là, le téléviseur a un micro toujours à l'écoute et un scanner réseau, ce qui ressemble davantage à un capteur de surveillance qu'à un objet de divertissement.
Et justement, cette idée de surveillance passive, on la retrouve dans un tout autre contexte, le développement web. CodePen, l'outil très connu des développeurs pour prototyper du HTML, du CSS et du JavaScript, a lancé une version 2.0 et il y a un problème de confidentialité que personne n'avait vraiment anticipé.
Explique-nous, parce que c'est subtil.
Alors CodePen 2.0 envoie la saisie de l'éditeur vers ses serveurs, au fur et à mesure que vous tapez, avant même que vous sauvegardiez. C'est pour alimenter les aperçus en temps réel. Sauf que si vous collez un mot de passe, une clé d'API, un jeton dans l'éditeur sans avoir sauvegardé, cette donnée peut quand même fuiter, notamment via les URL d'aperçus.
Et dans les commentaires, beaucoup de développeurs disent « ça m'est arrivé sans le savoir », parce qu'on colle un secret pour tester une requête. On se dit que ce n'est pas sauvegardé, donc ça n'existe nulle part. Sauf que côté serveur, la donnée a déjà transité. Un commentaire qui revient souvent, le problème n'est pas tant la fuite en elle-même que le fait que le comportement par défaut contredit le modèle mental des utilisateurs.
Exactement. Et certains comparent avec les environnements de développement locaux. Votre éditeur de code sur votre machine ne balance pas vos frappes clavier sur un serveur. D'où le débat. Est-ce que les outils en ligne doivent prévenir explicitement, par exemple avec une zone « ne jamais envoyer » ou est-ce à l'utilisateur de savoir? D'autres demandent si CodePen va changer le comportement ou ajouter un avertissement. Pour l'instant, c'est une question sans réponse dans la discussion.
Et le parallèle avec LG, c'est troublant. Dans les deux cas, une fonctionnalité présentée comme un confort, l'aperçu en direct, la voix et les recommandations cachent une collecte de données que l'utilisateur n'a pas choisie consciemment. L'ordinateur ne se contente plus d'exécuter. Il observe.
Et d'ailleurs, Thivo, dans le même registre, donne un exemple intéressant de confort qu'on vous retire. Depuis le 2 novembre 2026, Thivo supprime Skip Mode, le saut automatique des publicités qui était offert gratuitement, et teste à la place un complément payant mensuel.
Ce qui a fait ricaner plus d'un commentateur, on vous donne un jour la fonction, puis on vous la reprend et on vous la revend. Certains y voient l'illustration du modèle « tout devient un abonnement », d'autres rappellent que Thivo se bat pour sa survie économique et que rien n'est gratuit. Mais l'expérience utilisateur, elle, s'est clairement dégradée. Et ça nous amène à une autre entreprise qui joue très fort sur le contrôle de son écosystème, Broadcom.
Alors Broadcom, qui détient VMware, a retiré les téléchargements publics de VDDK, le Virtual Disk Development Kit, sans aucune explication. Et quand des clients demandent au support, la réponse est « indisponible ». Point.
Pourquoi c'est grave? parce que le VDDK est justement l'outil dont vous avez besoin pour accéder au disque virtuel VMware quand vous voulez migrer ailleurs. Donc au moment où des organisations cherchent à quitter VMware à cause justement des hausses de licences depuis leur achat, l'outil qui faciliterait le départ devient inaccessible.
Et là, les commentateurs sont très unis sur le diagnostic, même s'ils divergent sur l'interprétation. Le diagnostic, c'est un verrouillage délibéré de l'écosystème, ou au minimum une négligence tellement systématique qu'elle revient au même. Les divergences portent sur la suite. Certains pensent que ça accélérera les migrations, d'autres que ça les bloquera, parce que sans VDDK, extraire ces données devient plus coûteux et plus risqué.
Il y a aussi un débat intéressant sur la confiance fournisseur. Plusieurs retours d'expérience, des équipes qui ont hérité de parcs VMware énormes et qui réalisent que chaque outil tiers qui dépendait d'un téléchargement public peut disparaître du jour au lendemain. La leçon que beaucoup en tirent, il faut archiver localement les outils dont votre migration dépend, ne jamais considérer qu'un téléchargement restera disponible.
Et face à ce verrouillage, deux histoires de fuite vers le libre. La première vient du sport. Tottenham Hotspur a remplacé VMware par HP Morpheus VM Essentials et a réduit ses frais de licence de plus de 85%.
85% quand même. Et ce que les commentateurs notent, c'est que ce n'est pas une petite boîte de start-up, c'est un club sportif professionnel avec des infrastructures réelles, des contraintes de disponibilité le jour des matchs. Donc la migration, c'est la preuve que c'est faisable à taille réelle. Ça nourrit l'argument des partisans de la sortie de VMware, le coût du changement est ponctuel, le coût des licences est permanent.
Bien sûr, les sceptiques répondent qu'on ne connaît pas tous les détails du contrat, la durée, les coûts cachés de migration, et qu'un chiffre communiqué par l'organisation mérite un peu de prudence. Mais l'histoire sert surtout d'exemple encourageant pour tous ceux qui hésitent.
Et la deuxième fuite est encore plus significative politiquement. La Suisse a annoncé qu'elle allait migrer 3000 postes fédéraux de Microsoft 365 vers OpenDesk, une suite open source, dans un premier temps comme pilote, avec un objectif fixé à 2027. Et tout ça s'appuie sur une loi de souveraineté numérique.
Ce qui a lancé un beau débat dans les commentaires. Les optimistes disent, c'est le signal que la souveraineté numérique passe des discours aux actes, et que quand un État bouge, les éditeurs propriétaires doivent enfin négocier sérieusement. Les pessimistes rappellent que 3000 postes, c'est un pilote, et que la vraie question sera la migration à grande échelle. La compatibilité des documents, la formation des agents, les fonctionnalités manquantes d'OpenDesk par rapport à l'écosystème Microsoft.
Un point qui revient souvent, la Suisse fait ça pour la souveraineté, donc le contrôle de ses données et de ses outils, pas uniquement pour le prix. Et ça change le calcul. Une entreprise compare les coûts, un État compare aussi sa dépendance à un acteur étranger. Et ça rejoint exactement la leçon de l'affaire Broadcom. Quand vous n'avez pas de sortie possible, le fournisseur fixe les conditions.
Et heureusement, le côté libre, il avance aussi par lui-même, pas seulement en réaction aux éditeurs propriétaires. Jellyfin, le serveur multimédia libre, alternative aux solutions commerciales de streaming maison, sort sa version 12.0.
Et c'est une version symbolique, parce que Jellyfin abandonne le préfixe 10 de son numéro de version. Après des années en 10 août, 10 septembre, passé à 12.0, c'est une déclaration, on tourne la page.
Mais attention, il y a un point de vigilance que les mainteneurs soulignent eux-mêmes. La migration de la base de données exige une sauvegarde préalable. Ce n'est pas une mise à jour qu'on lance en cliquant sans réfléchir. Et côté utilisateur, une nouveauté bien accueillie. Les noms d'utilisateurs deviennent insensibles à la casse. Fini les confusions entre Nicolas et Nicolas.
Dans les discussions, beaucoup racontent leur usage de Jellyfin comme une véritable alternative installée sur leur propre matériel, sans abonnement, sans collecte de données, et on voit bien le contraste avec la télé-LG dont on parlait au début. Vous regardez vos films chez vous et rien n'est envoyé à personne.
Et le libre ne se limite pas aux serveurs multimédia. Tala, le moteur de mise en page de diagrammes d'architecture de TerraStruct, passe en open source sous licence MPL 2.0 et il est intégré à la version 0.9.0 de D2, le langage de description de diagrammes.
Ce que les développeurs saluent, c'est que le rendu des diagrammes d'architecture est un vrai problème difficile, un problème d'algorithmie de disposition graphique. Le rendre open source, ça veut dire que d'autres outils vont pouvoir en bénéficier et que la communauté pourra contribuer. Plusieurs commentaires espèrent voir Tala adopté au-delà de D2.
Et si on veut mesurer la vitalité du libre et de l'open data, deux exemples communautaires. D'abord ovlive.be, une carte en temps réel de tous les bus, trams, métros et trains de Belgique, construite sur les données ouvertes des opérateurs.
Et l'autre, encore plus fou, quelqu'un a modélisé en 3D la totalité du 1 100 000 bâtiments de la ville de Los Angeles, en les datant par année de construction de 1880 jusqu'à 2026, en combinant des données LIDAR et les données du cadastre, le tout rendu avec Maplibre.
Et ce que les commentateurs adorent, c'est qu'on peut littéralement voir l'histoire urbaine de la ville, les quartiers anciens, les vagues d'expansion, les zones reconstruites. Certains imaginent des usages pédagogiques, d'autres des usages en urbanisme. Et ça illustre un point. Quand les données publiques sont ouvertes, la communauté produit des choses qu'aucune entreprise ne ferait. Un contrepoint amusant, tout le monde demande maintenant la même chose pour sa propre ville.
Mais l'open source et les données ouvertes, ça ne protège pas de tout. Parce que l'autre grande leçon de la semaine, c'est que l'ancien logiciel, lui, finit par se casser. Et parfois de manière spectaculaire.
Alors voilà l'histoire qui a fait sensation. Un chercheur a factorisé des racines d'autorité de certification RSA de 512 bits, les clés E-Certify, qui étaient livrées avec Netscape 4 mai, un an 1999. Et il l'a fait en environ 30 heures, sur un simple processeur Ryzen de bureau.
30 heures sur un CPU grand public. C'est ce chiffre qui a marqué tout le monde, parce que ces clés, à l'époque, elles étaient considérées comme sûres. Elles signaient des certificats, donc si vous pouviez les factoriser, vous pouviez potentiellement forger des certificats qui auraient l'air valides.
Et le débat dans les commentaires tourne autour de deux questions. Première question, est-ce que c'est grave aujourd'hui ? Et là, les avis divergent. Les uns disent que c'est purement académique, que ses racines ne sont plus reconnues par aucun navigateur moderne depuis des décennies, que personne n'utilise Netscape 4 mai 1 proie. Les autres répondent, ce n'est pas si simple, parce que des systèmes anciens, des équipements industriels, des machines embarquées, peuvent encore valider des signatures avec des bibliothèques qui n'ont pas été mises à jour, et qui accepteraient peut-être ces vieilles chaînes de confiance.
Et deuxième question, plus profonde, qu'est-ce qui reste signé avec de la crypto faible, cachée au fond d'archives, de sauvegardes, de documents PDF signés il y a 20 ans ? Un commentaire qui revient, la crypto ne meurt pas le jour où on la casse, elle meurt le jour où quelqu'un prend la peine de la casser et qu'on s'en rend compte. Le fait qu'un CPU de bureau suffise en 30 heures, ça veut dire que tout ce qui repose encore sur du RSA 512 bits est, en pratique, déjà compromis.
Et ça rejoint une discussion récurrente sur l'hygiène des systèmes anciens. À partir de quand décide-t-on qu'un algorithme est mort ? Est-ce qu'on publie les facteurs, comme on publie les failles ? Le chercheur a rendu son travail public, et certains trouvent ça sain, d'autres s'inquiètent des usages malveillants. Mais dans les faits, quiconque est motivé pouvait déjà le faire.
Et dans le même esprit d'archéologie logicielle, un dépôt GitHub publie le code source reconstruit de Stuxnet, environ 15 000 lignes issues de binaires décompilés. Le tout présenté à des fins de recherche et d'éducation.
Stuxnet, pour rappel, c'est le ver qui a visé les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Un malware d'une sophistication inouïe, attribué à des acteurs étatiques. Et avoir son code reconstruit en pleine lumière, ça a déclenché un débat de fond.
D'un côté, les défenseurs du dépôt. La rétro-ingénierie de malware célèbre est une pratique de recherche établie. Le code permet d'étudier des techniques d'attaque, de mieux défendre les systèmes industriels. Et le malware a cessé d'être une menace active depuis longtemps. De l'autre, les inquiets, 15 000 lignes de code fonctionnelles, ça peut servir de matière première pour construire de nouvelles attaques, notamment contre des infrastructures industrielles qui, elles, existent toujours et ne sont pas forcément mieux protégées.
Et ce qui est fascinant dans les commentaires, c'est que beaucoup de spécialistes de sécurité se retrouvent des deux côtés à la fois. Ils reconnaissent la valeur pédagogique, ils ont eux-mêmes appris en lisant du code de malware, mais ils admettent que la ligne entre étudier et réutiliser est mince. La question qui reste sans réponse, est-ce qu'il existe un cadre cohérent pour ce genre de publication, ou est-ce qu'on agit au cas par cas ?
Et il y a un parallèle amusant avec l'histoire E-Certify. Dans les deux cas, des artefacts du passé, du code et des clés ressurgissent et posent des questions de sécurité au présent. La technologie avance, mais les vieux fantômes restent là, et un CPU de bureau ou un dépôt GitHub suffisent à les réveiller.
Et puis il y a un troisième fantôme, plus tragique celui-là, une Tesla Model 3 avec FSD, Full Self-Driving ou autopilote vérifié comme engagé au moment des faits, a grillé un stop dans le New Jersey et tué une conductrice de 82 ans. Et de taille qui a relancé la polémique, Tesla a censuré des champs clés du rapport de la NHTSA, l'agence américaine de sécurité routière.
Alors là, les commentaires sont durs, et je pense qu'il faut le dire honnêtement, ce qui choque, ce n'est pas seulement l'accident, c'est la rédaction. Quand le constructeur du système qui pilotait le véhicule masque des informations dans le rapport de l'agence qui enquête, la question de la transparence devient centrale.
Et on retrouve deux lignes de débat qu'on connaît bien. La première porte sur la responsabilité. Un système vérifié comme engagé, au moment d'un accident mortel, est-ce que ça engage le constructeur, le conducteur, les deux ? Les uns rappellent que FSD exige une supervision constante et que le conducteur reste responsable, les autres répondent que si le système rate un stop, ce n'est pas une erreur de supervision humaine, c'est une défaillance du produit, et que le marketing de Tesla autour de la conduite autonome brouille justement cette distinction.
La deuxième ligne porte sur la transparence des données. Un argument qui revient souvent, Tesla collecte énormément de données de télémétrie, donc elle sait exactement ce qui s'est passé, et si les champs clés du rapport sont censurés, ça nourrit le soupçon qu'une divulgation complète ne serait pas favorable au constructeur. D'autres tempèrent en disant que la censure peut avoir des justifications, la protection du secret industriel, la vie privée, mais la méfiance, elle, est bien réelle.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire crée un pont avec le début de l'émission. D'un côté, un téléviseur qui vous écoute, de l'autre, une voiture qui conduit et qui, quand quelque chose va mal, garde ses données pour elle. Dans les deux cas, l'utilisateur n'a pas la visibilité sur ce que la machine sait et fait. Et la question qui reste ouverte, qu'est-ce que l'enquête de la NHTSA va donner? Est-ce qu'il y aura des rappels, des changements réglementaires sur la conduite dite autonome? Personne ne le sait.
Et justement, cette tension entre ce que les machines font et ce que les humains gardent pour eux, on la retrouve dans un débat qui agite la communauté des développeurs. Quelle place laisser à l'IA dans le code?
Alors techniquement d'abord, parce qu'il y a du concret, le blog de VLLM, le moteur d'inférence pour grands modèles de langage, détaille le décodage spéculatif sur des GPU AMD, les MI300X et MI355X, avec des benchmarks sous OrocAM. Il compare plusieurs méthodes, MTP, EGL3, DevLash, DeSpark.
Le décodage spéculatif, en deux mots pour les auditeurs, au lieu de générer les tokens un par un, on laisse un petit modèle proposer plusieurs tokens d'avance, et le gros modèle vérifie en parallèle. Si les propositions sont bonnes, on gagne beaucoup de temps. Et le fait que VLLM publie des benchmarks sérieux sur du matériel AMD, ça compte, parce que l'écosystème d'inférence était très dominé par Nvidia.
Et dans les commentaires, les retours sont partagés. Certains confirment des gains réels en production avec ces techniques, d'autres nuancent en disant que les résultats dépendent énormément du modèle, du type de charge, du taux d'acceptation des tokens proposés. Comme toujours en performance, il faut mesurer sur son propre cas d'usage. Mais l'ordre du jour général, c'est que l'inférence devient moins chère et plus rapide, et que ça ouvre la porte à des usages plus larges.
Et justement, l'IA comme outil de recherche. Le Caltech organise un matathon, un hackathon de 40 heures le 30 octobre 2026, où 100 équipes vont utiliser des modèles d'IA de pointe pour attaquer des conjectures mathématiques ouvertes.
Là, les avis sont vraiment tranchés dans la discussion. Un camp est enthousiaste. 100 équipes sur des conjectures ouvertes, c'est une expérience de recherche inédite. Et même si une seule équipe fait un progrès partiel, c'est déjà énorme. Les modèles d'IA sont déjà capables d'apporter des pistes sur des problèmes de maths. Et les mettre à l'échelle avec des humains pour filtrer, c'est exactement le bon usage.
L'autre camp est sceptique. Et leurs arguments méritent d'être entendus. D'abord, les conjectures ouvertes sont ouvertes précisément parce que les meilleures mathématiciennes et les meilleurs mathématiciens du monde ont échoué. 40 heures, même avec les meilleurs modèles, ça ressemble à du marketing autant qu'à de la science. Ensuite, un hackathon pousse à la vitesse, alors que les mathématiques demandent de la profondeur. Et enfin, y a le risque de résultats non vérifiés, de preuves approximatives présentées comme des avancées. Mais même les sceptiques s'accordent sur un point. Le résultat de l'événement, quel qu'il soit, sera une donnée précieuse sur ce que l'IA sait vraiment faire en mathématiques.
Et en parallèle de tout ça, un essai a relancé le débat existentiel. L'auteur affirme que les vrais programmeurs écrivent le code comme un art, et ne le confieront pas à l'IA, mais avec une pirouette finale. Lui-même, avoue-t-il, ne code que pour l'argent.
Et cette pirouette, c'est elle qui a fait vivre la discussion. Parce que d'un côté, beaucoup de développeurs reconnaissent le sentiment. Il y a un plaisir d'artisan dans écrire du code soigné, et déléguer ça à une machine peut sembler vider le métier de sa substance. Les défenseurs de cette position disent que le code, ce n'est pas seulement un produit, c'est une compréhension, et qu'en déléguant, on perd la compréhension.
De l'autre côté, les pragmatiques. Certains pointent l'ironie. Si l'auteur ne code que pour l'argent, alors pourquoi refuser l'outil qu'il fait plus vite? D'autres racontent leur quotidien. Ils utilisent l'IA pour le code répétitif, la plomberie, les tests, et gardent pour eux l'architecture et les choix de conception. Pour eux, l'IA n'enlève pas l'artisanat, elle en dégage les corvées. Et il y a les inquiets, qui voient les juniors apprendre à déléguer avant d'avoir appris à écrire et se demandent comment se formera la prochaine génération.
Et la question reste ouverte, vraiment, est-ce que l'IA remplace l'artisanat du code ou est-ce qu'elle le déplace vers la conception, la relecture, les décisions? Est-ce que dans 10 ans, écrire du code à la main sera comme écrire à la main une mise en page qu'une machine ferait mieux? Les commentateurs ne s'accordent pas et honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse.
Et comme toute technologie soulève ces questions d'usage, on va finir par des histoires plus petites, mais qui racontent toute la même chose, le rapport entre les utilisateurs et les entreprises, ou les systèmes qui repensent, et parfois dégradent, l'expérience.
Alors commencez par celle-là, parce qu'elle est savoureuse, un email interne de Microsoft de 2003 vient de ressurgir, dans lequel Bill Gates est furieux après avoir échoué à télécharger Movie Maker depuis Microsoft.com. Il s'insurge contre l'ergonomie du site de sa propre entreprise.
Et ce qui est délicieux, c'est que c'est Bill Gates lui-même, en 2003, qui vit exactement ce que vivent les utilisateurs. Une page qui ne propose pas le bon téléchargement, des étapes inutiles, une navigation confuse. Son email est cinglant sur l'expérience utilisateur. Et les commentateurs en tirent une leçon. Si le fondateur, avec tous les pouvoirs qu'il avait, n'arrive pas à télécharger un logiciel de sa propre entreprise, c'est que les problèmes d'ergonomie sont structurels, pas des accidents. Et ça résonne aujourd'hui. 20 ans plus tard, on se bat encore avec des téléchargements, des cookies, des murs d'abonnement.
Et d'ailleurs, TiVo, dont on parlait, en est une version 2026. L'ergonomie et le confort qu'on vous donne, puis qu'on vous retire. C'est toujours la même tension entre l'expérience de l'utilisateur et les intérêts de l'entreprise.
Dans un tout autre genre, Nathan Fielder a présenté à Telluride son documentaire sur Elizabeth Holmes, You Can See Everything, produit par A24, 174 minutes.
Et le titre est parfait pour notre fil rouge de la confiance, Elizabeth Holmes, Theranos, la promesse d'une technologie qui devait tout voir d'une goutte de sang et qui n'existait pas. 174 minutes, c'est long, et les discussions s'interrogent déjà sur l'angle que Fielder, connu pour son approche dérangeante, va prendre. Est-ce une anatomie du mensonge ? Une étude de personnalité, une réflexion sur la Silicon Valley. Le film vient de débuter, donc les réponses viendront avec sa sortie plus large.
Et puisqu'on parle de bizarrerie de la recherche appliquée, celle-ci est un classique des Zig Nobel, un article dans PNAS Nexus sur des urinoirs sans éclaboussures, avec la conception Nautilus recommandée, qui a remporté le prix Ig Nobel de physique 2026.
Et le fait que ça passe par de la vraie recherche, une publication dans une revue scientifique sur la dynamique des fluides appliqués à un urinoir, c'est exactement l'esprit Ig Nobel. D'abord faire rire, puis faire réfléchir. Et plusieurs commentaires font remarquer que le problème est réel, que les conceptions existantes sont mauvaises et qu'une étude sérieuse sur la forme optimale a des applications pratiques dans des millions de toilettes. La science sérieuse n'a pas besoin d'un sujet noble.
Et pour terminer sur une note plus personnelle, un billet qui a beaucoup fait parler. Un développeur raconte ses deux brinro vacations, des vacances contre la pourriture cérébrale. Une pause lente à la campagne, de la lecture, des maths et de la physique en hobby, pour inverser ce qu'il décrit comme un déclin mental causé par les usages numériques.
Et les réactions sont étonnamment nuancées. Beaucoup témoignent. Oui, couper les flux courts, les fils d'actualité, les notifications, ça change la capacité de concentration en quelques semaines. D'autres racontent avoir repris des mathématiques ou de la lecture longue avec le même objectif. Et les sceptiques rappellent que le terme « brain rot » est à la mode, et qu'il faut se méfier des récits de déclin cérébral qui fleurissent à chaque nouvelle technologie. Mais même eux reconnaissent que prendre des pauses lentes, ça ne peut pas faire de mal.
Et pour les lecteurs qui voudraient déconnecter sans pour autant abandonner la lecture, une petite trouvaille. L'Atlantique vante un e-reader à 70$, le Ixtan X3, format carte de crédit, qui aiderait vraiment à lire plus.
Avec des limites assumées, pas d'écran tactile, pas de rétroéclairage, donc un objet volontairement dépouillé. Et le détail qui va faire sourire nos auditeurs après cette émission, il existe un firmware open source, Crosspoint, qu'on peut lui installer. Même sur un e-reader à 70$, la communauté du libre trouve le moyen de reprendre le contrôle.
C'est une belle boucle en effet. Et un dernier point, plus sérieux, sur le droit à la réparation en Europe. Un an après l'entrée en vigueur des règles européennes de réparabilité, seuls environ 18% des 2334 nouveaux smartphones listent les liens d'information de réparation obligatoire.
18%. C'est le chiffre qui résume tout. Une règle existe et les acteurs la respectent à moins d'un sur cinq. Les commentateurs s'interrogent sur les sanctions. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'elles sont appliquées ? Certains pointent le flou sur qui contrôle quoi entre les États membres et la Commission. D'autres notent que les fabricants ont peut-être trouvé des échappatoires dans les définitions. Quel modèle compte comme nouveau ? Quels liens suffisent ? La leçon, encore une fois. Une règle sans application effective, ça ne change pas grand-chose pour l'utilisateur.
Et ça fait écho à tout ce qu'on a dit ce soir. La LG qui écoute, CodePen qui transmet vos frappes, Broadcom qui retire ses outils, Tesla qui censure son rapport, TiVo qui retire sa fonction, l'Europe qui légifère sans faire respecter. Dans tous ces cas, la question est la même. Qui a le pouvoir d'information et de contrôle, et comment l'utilisateur reprend-il la main ?
Et parfois il reprend la main, comme avec Jellyfin, Tala, Crosspoint, OvLife.b ou les 1100 000 bâtiments de Los Angeles en 3D. Ce n'est pas du tout le même monde, mais ça coexiste, et chacun choisit de quel côté il se place.
Sur cette note, on vous dit merci d'avoir été là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.
Prenez soin de vous, et pensez peut-être à débrancher votre téléviseur. Bonne soirée.